bienvenue dans votre magazine de l'environnement. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une émission qui va nous permettre de prendre le large, Arnaud.
Oui, bonjour Anne-Cécile, bonjour à tous. Content de vous retrouver avec un reportage sur l'une des réserves naturelles les plus extraordinaires du monde. Un endroit où les grandes vagues de dunes du Sahara semblent continuer à se déverser au large dans l'immensité océanique de l'Atlantique. Cet endroit unique, c'est le fameux banc d'Arguin.
Un parc national de 12 000 km² au large de la Mauritanie.
Il n'y a plus d'apport d'eau douce, il n'y a plus d'apport fluviaux, tu vois. Les grands fleuves qu'on a traversés, qui sont maintenant secs, n'apportent plus des sédiments. Et c'est le vent qui continue à enrichir l'estuaire, entre guillemets, qui n'est plus un estuaire parce qu'il n'y a plus d'eau douce. Si ce n'était pas le vent, il n'y aurait pas cet apport permanent de sédiments parce qu'il n'y a plus d'eau douce.
Ces grands bancs de sable qui s'étirent sur la côte mauritanienne ont toujours été craints par les navigateurs qui doivent à cet endroit s'éloigner très très loin des côtes pour les contourner. Souvenez-vous du radeau de la Méduse, une histoire de naufrage qui se serait passée sur ce banc et qui est devenue, de par son isolement entre mer et désert, un refuge naturel d'oiseaux migrateurs et de poissons de toutes sortes. Un biotope exceptionnel protégé par un parc naturel depuis 1976 et classé en 1989 patrimoine mondial de l'UNESCO. Un écosystème unique que nous vous invitons à découvrir sur un très beau reportage de Clémentine Genévrier. Mais ce sera tout à l'heure, Anne-Cécile, dans la deuxième partie de l'émission.
Le bain est idéal. Il faudrait dès le début qu'on apprenne vraiment tous à bien trier comme il faut. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça. Et on ne peut plus faire demi-tour. Pour les générations à venir, il faut faire attention justement pour pouvoir préserver, pour qu'ils aillent des belles choses encore.
Mais tout de suite, c'est le jeu de cette première partie. On décortique l'actualité avec votre regard environnemental. Franck Hirschlin, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes chargé du programme Espèces au comité français de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et pour commencer ce tour de l'actualité, Arnaud, il y a justement ce bilan sur l'état de la biodiversité planétaire que l'UICN vient de publier hier.
Oui, c'est le tableau le plus exhaustif de l'état de la biodiversité dans le monde, puisque contrairement à la liste rouge des espèces menacées que l'UICN publie tous les ans, là, c'est le résultat de 4 ans de recherche et le constat est dramatique. Vous affirmez que les espèces animales et végétales disparaissent de 100 à 1000 fois plus rapidement que lors des grands épisodes d'extinction du passé, Franck Kirschner. C'est le résultat, la conclusion de cette nouvelle étude?
Effectivement, tous les 4 à 5 ans, l'UICN établit un grand diagnostic de l'état des espèces. Et ce diagnostic repose sur l'étude de la situation de 45 000 espèces dans le monde. Et ce dont on se rend compte, c'est que sur ces espèces, 17 000 sont aujourd'hui en danger d'extinction sur la planète.
Alors on peut détailler un peu, hein, parce que c'est catastrophique au niveau des mammifères, des amphibiens, des oiseaux.
Effectivement, malheureusement, tous les groupes d'espèces sont concernés. Chez les mammifères, plus d'un sur quatre est menacé. Chez les amphibiens, un sur trois. Pour les oiseaux, un sur huit. Donc effectivement, la crise de l'extinction touche tous les groupes d'espèces.
Et est-ce que c'est plus grave que les crises précédentes? Celle de l'extinction des dinosaures, par exemple, que tout le monde a un peu en tête.
Alors, c'est grave, effectivement, parce que la dernière fois qu'on a connu un rythme si fort d'extinction des espèces, c'était il y a 65 millions d'années, quand les dinosaures ont disparu de la planète. Depuis, on n'avait pas connu ça, et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle crise, qui est la sixième grande crise d'extinction des espèces au niveau de la planète.
Comment on arrive justement à quantifier ça, je veux dire, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé? Parce qu'on peut dire, vous savez, c'est peut-être déjà produit.
Alors, c'est des études très longues, des études de paléoécologie, des études on étudie les squelettes, les fossiles, etc. Donc, on sait ce qui s'est passé dans le passé sur ces études-là. Et aujourd'hui, on a les espèces de la planète et on est capable d'évaluer le risque d'extinction. Et c'est ce que dit la liste rouge et c'est ce qu'elle révèle quand on a dit que 17 000 espèces sont menacées d'extinction.
Alors là où ça devient vertigineux, c'est qu'en fait, vous parlez de 45 000 espèces étudiées, ce qui est finalement très peu par rapport à l'ensemble des espèces du monde.
Et oui, on a décrit aujourd'hui 1,8 million d'espèces sur la planète. Il y en existe sans doute 10 fois plus. Donc, en fait, on en a évalué dans la liste rouge à peu près 2,5%. C'est un tout petit diagnostic, mais c'est intéressant. En fait, on n'a pas mieux aujourd'hui, on n'a pas de diagnostic plus complet. Et ce diagnostic révèle une tendance lourde. Et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on progresse, qu'on étend le diagnostic, la tendance se confirme, malheureusement, avec des forts taux de menaces dans chaque groupe.
Alors, on reviendra tout à l'heure plus en détail sur ce rapport, mais on continue notre tour de l'actualité, si vous en êtes d'accord, avec ce débat en France sur l'instauration d'une taxe carbone. Le principe serait de taxer tous les produits et toutes les pratiques industrielles qui utilisent du pétrole, du gaz ou du charbon, les trois énergies qui produisent produisent le plus d'émissions de gaz à effet de serre. L'instauration de cette taxe a été évoquée à plusieurs reprises durant le Grenelle de l'environnement. Certains pays l'ont déjà instaurée, d'ailleurs comme la Suède, qui préside actuellement l'Union européenne. En France, des experts discutent depuis hier sur cette solution de manière très sérieuse. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée pour lutter contre le réchauffement climatique, la taxe carbone ?
Non, oui, donc je ne suis pas tout à fait spécialiste de ces questions, mais quand même, sur le principe, il faut bien reconnaître que c'est une bonne idée. C'est-à-dire, ce qu'il faut voir, c'est que l'idée, c'est de taxer fortement les énergies qui sont plus polluantes. Donc, c'est un peu le principe pollueur-payeur. L'idée, c'est qu'une énergie polluante doit coûter plus cher que l'énergie non polluante. Et en instaurant cette taxe, on souhaite orienter les consommateurs, les entreprises, vers des choix d'énergie moins polluantes. Donc, c'est effectivement une très bonne idée.
Alors, le réchauffement climatique, il en sera évidemment question la semaine prochaine lors du G8, qui se déroulera en Italie. L'Allemagne est aujourd'hui le meilleur élève du G8 en matière de lutte contre les gaz à effet de serre devant le Royaume-Uni et la France, selon un classement effectué chaque année par le WWF et le groupe financier Allianz, et qui révèle que finalement c'est le Canada qui arrive en dernier. Alors, Angela Merkel, la chancelière allemande, a rappelé l'urgence pour tous les pays industrialisés de réaffirmer leurs objectifs dans ce domaine pour que le monde ne dépasse pas une augmentation de 2 degrés. L'enjeu, c'est évidemment la conférence de Copenhague en décembre prochain, échéance à laquelle tous les pays du monde devront se mettre d'accord sur une stratégie globale pour limiter la dégradation du climat. Frank Kirchner, c'est un objectif, de 2 degrés, c'est un objectif qui vous paraît atteignable dans le contexte actuel ?
C'est un objectif, c'est ambitieux, mais en fait, on n'a pas le choix. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le groupe international d'experts sur le climat nous dit de façon sûre que la planète connaît un réchauffement climatique. Ce groupe nous dit une deuxième chose, c'est qu'il y a toutes les chances que ce réchauffement soit effectivement dû à l'activité de l'homme. Donc, on a créé le réchauffement climatique, c'est maintenant à nous de le réduire et de l'enrayer. Donc, une mobilisation est nécessaire, et en fait, on n'a pas le choix, parce que si on ne réagit pas aujourd'hui, et donc lors de ce grand rendez-vous de décembre, ça veut dire qu'on va laisser les ressources naturelles s'amenuiser, on risque de tendre encore les ressources alimentaires, et on risque de voir s'accentuer les déplacements de population sur la planète, comme on commence à en connaître aujourd'hui.
On disait que 2 degrés, c'était peut-être un seuil au terme de perte de biodiversité, on disait peut-être au-delà de 2 degrés, là vraiment on bascule dans quelque chose de dramatique.
Tout à fait, on a l'impression que si on passe le seuil de 2 degrés, on va atteindre un point de bascule qui va entraîner une spirale dont on ne maîtrise pas aujourd'hui bien les conséquences, qui risquent d'être très dures.
Yeah.
Allède dans C'est pas du vent sur RFI. Et maintenant, on s'intéresse à l'actualité environnementale d'une région du monde. Aujourd'hui, le Proche et le Moyen-Orient.
Et le Proche et le Moyen-Orient, c'est avec vous Aurélien Colli. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on commence avec l'IRENA, l'Institut international pour les énergies renouvelables, une nouvelle agence internationale dédiée donc à l'environnement.
Oui, l'IRENA, c'est une idée allemande au départ, créer une agence mondiale destinée à aider, à conseiller, à orienter les gouvernements de la planète pour favoriser une transition rapide et globale vers les énergies renouvelables, c'est à l'issue du vent, de l'eau ou du soleil. Fin juin, 136 pays ont signé le traité de création de cette nouvelle agence IRENA, qui est différente de l'Agence internationale pour l'énergie qui regroupe seulement 28 pays industrialisés depuis le premier choc pétrolier de 1973.
Et cette nouvelle agence, IRENA, sera basée aux Émirats Arabes Unis. C'est pour ça que vous nous en parlez aujourd'hui.
Exactement. Dans la capitale des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi, qui a remporté le vote des pays participants lors de la première réunion de l'IRENA, il y a quelques jours à Sharm el-Sheikh en Égypte. Alors Bonn en Allemagne et Vienne, la capitale de l'Autriche, étaient aussi candidates, mais elles se sont retirées à la dernière minute. Alors Abu Dhabi tenait beaucoup à accueillir l'IRENA. Les Émirats sont un grand exportateur de pétrole avec la plus grande empreinte carbone par habitant dans le monde. Les autorités veulent que ça change. Accueillir l'IRENA, c'est un signal fort, donc. D'autant que l'agence sera basée à Masdar, une ville verte en construction près d'Abu Dhabi, qui aura un niveau d'émission de gaz carbonique égal à zéro. Une cité qui fonctionnera exclusivement au moyen d'énergie renouvelable. Masdar sera terminée en 2015. Elle comptera 50 000 habitants. Et là-bas, l'IRENA sera par ailleurs dirigée par une Française, Hélène Pelos, 39 ans, qui était directrice adjointe depuis 2007 du cabinet du ministre français du développement durable, de l'énergie et du climat, Jean-Louis Borloo.
Alors, il y a 136 pays donc pour cette agence à Abu Dhabi, mais il manque quelques poids lourds. Non.
Oui, c'est vrai. Notamment des grands pays émergents comme la Chine, le Brésil ou le Mexique, ou encore la Russie et le Canada pour l'Occident. Les réticences de ces pays à rejoindre l'IRENA, eh bien Hélène Pelous, la nouvelle patronne, les explique en partie par la volonté farouche de certains pays de préserver leur indépendance.
Alors, direction l'Irak maintenant, avec le problème délicat du partage de l'eau avec les voisins.
Oui, avant d'arriver en Irak, l'Euphrate, principal fleuve du pays avec le Tigre, passe en Turquie et en Syrie, indispensable donc de s'entendre. Au début du mois, le ministère irakien des ressources hydrauliques avait tiré la sonnette d'alarme, débit trop faible pour les besoins de l'agriculture irakienne à cause des barrages en Turquie et en Syrie. Le débit était tombé à 230 mètres cubes par seconde à son entrée en Irak, alors qu'il était encore à 950 mètres cubes par seconde en 2000. Alors, la Turquie a entendu. Elle a accru de plus de la moitié le débit de l'Euphrate pour le porter à 570 mètres cubes par seconde. Ankara a même annoncé qu'elle allait encore doubler le débit d'ici fin juillet.
Alors, la Syrie suit aussi ce mouvement.
Oui, la semaine dernière, Damas a aussi annoncé qu'elle augmentait le débit de l'Euphrate pour aider l'Irak à surmonter la sécheresse. Augmentation de 58% du débit du fleuve côté syrien.
Et l'on reparle pour finir de l'Union pour la Méditerranée. Première réunion à Paris consacrée à des projets sur l'eau, l'environnement et les énergies renouvelables.
Les 43 ministres des pays de l'UPM étaient là. Ils ont examiné en tout plus de 200 projets autour du bassin méditerranéen. Ils ont aussi annoncé le lancement de plusieurs projets pilotes, construction d'une centrale photovoltaïque au Maroc ou de pompes pour l'irrigation alimentée, là encore par des panneaux photovoltaïques en Tunisie. La France a aussi demandé qu'un projet d'adduction de traitement d'eau à Gaza, un projet suspendu depuis l'offensive israélienne dans la bande de Gaza en décembre dernier, que ce projet soit relancé. Il concerne environ 20% des besoins en eau des territoires palestiniens et ce sera une priorité pour l'UPM pour les mois qui viennent.
Merci Aurélien Colli.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Alors Franck Kirchner, une réaction à cette sélection d'informations environnement sur le Proche et le Moyen-Orient?
Peut-être juste pour revenir sur l'Agence internationale des énergies renouvelables, c'est une très bonne nouvelle.
L'IRENA, donc.
L'IRENA, exactement. Si on veut effectivement affronter le réchauffement climatique et le défi qui nous attend, il faut opérer une mutation profonde dans la consommation des énergies vers les énergies fossiles, vers les énergies renouvelables. Donc, petit à petit, abandonner le pétrole, le charbon et passer à ces énergies renouvelables. Et on espère que l'IRENA y aidera.
136 pays qui se réunissent, c'est déjà un beau
exactement.
Geste.
Exactement. C'est un signe plutôt très encourageant.
Même s'il manque quelques poids lourds, comme on le disait tout à l'heure. Alors, nous le disions au début de l'émission, vous êtes chargé du programme Espèces à l'Union internationale pour la conservation de la nature, au comité français, qui vient de publier donc ce rapport sur l'état de la biodiversité dans le monde. Plus d'un tiers, vous nous le disiez, des 45 000 espèces étudiées sont menacées d'extinction. Et c'est un phénomène qui devrait s'aggraver en plus avec le réchauffement climatique.
Tout à fait. On connaît déjà des menaces très importantes sur la biodiversité, la destruction des habitats naturels, comme la déforestation, c'est une première menace. Un deuxième type de menace, c'est la surexploitation. Donc on prélève des espèces avec la surpêche dans les océans, ou l'exploitation des bois exotiques, ou le braconnage des grands félins. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une nouvelle menace qui arrive, qui va se surajouter aux autres, qui est celle du réchauffement climatique. Et donc cette menace va fortement graver la situation.
Un exemple, par exemple, d'une espèce qui est directement menacée par le réchauffement climatique.
On a déjà des signes très inquiétants sur les coraux dans le monde. Vous savez que les coraux, donc les récifs coralliens, ne peuvent pas supporter des augmentations de température. Et quand la température de l'océan augmente, les coraux blanchissent et meurent. Et c'est comme ça qu'on a observé dans les Caraïbes en 2005 une perte de 40% des récifs de coraux en une seule saison. Il y a eu le même épisode dans l'océan Indien et les Australiens ont maintenant peur pour leur grande barrière de corail parce que ce phénomène s'étend à toute la planète.
Alors le corail, c'est pas forcément quelque chose de très affectif, donc il faut expliquer aussi qu'en plus, autour du corail, il y a une vraie richesse de biodiversité.
Tout à fait. Alors, le corail, c'est joli tout de même, mais plus que ça, les récifs de coraux sont en fait les nourrisseries des océans. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une grande quantité de poissons viennent s'y reproduire et les jeunes s'y nourrissent. Et en résumé, si le corail disparaît, on va perdre une grande partie des capacités des océans à régénérer les stocks de poissons. Donc, c'est très inquiétant.
Alors, ce rapport souligne quand même avant tout l'échec de la mobilisation internationale face à cette perte qu'on dénonce déjà depuis plusieurs années.
Mais oui, tous les pays en 2002 ont pris un engagement très fort qui était de réduire significativement la perte de biodiversité à l'horizon 2010. L'Union européenne a même pris l'engagement de stopper cette perte. 2010, on y est quasiment, c'est demain. Et le rapport nous indique très clairement que l'objectif ne sera pas atteint. L'érosion de la biodiversité, on est en train de la vivre en plein, elle s'accélère. Et donc, on n'a pas atteint les engagements.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser cette tendance ? Parce qu'il y a des exemples d'espèces qui étaient menacées et qui ont été sauvées. Vous pouvez peut-être nous en donner un petit peu quelques illustrations et donc voir quelles sont les solutions.
Oui, heureusement, dans ce tableau très sombre, il y a quelques bonnes nouvelles. Alors, quelques exemples. La baleine à bosse était au bord de l'extinction dans les années 50. Et puis, en fait, suite au moratoire sur sa pêche, à l'interdiction, elle est sortie de la liste rouge. Donc, la baleine à bosse, c'est une baleine que vous connaissez, hein, qui est une baleine qu'on aime bien voir. C'est la baleine qui saute de l'eau, qui a un ventre tout blanc, des grandes nageoires.
Ce qui n'est pas complètement gagné, parce que quand on voit ce qui s'est passé à la CBI, la Commission baleinière internationale, il y a quelques jours, les choses sont encore compliquées.
Exactement. Malheureusement, certains pays réclament de pouvoir la pêcher, maintenant qu'elle va mieux, alors qu'elle vient tout juste de sortir de la liste rouge. D'autres exemples, il y a la perruche de Maurice, par exemple. Un des perroquets les plus rares du monde, dans les années 70, il y en avait une dizaine d'individus. Et grâce à la mobilisation du gouvernement mauricien et de la Fondation mauricienne pour la vie sauvage, des individus ont été réintroduits. On a protégé les nids, parce qu'en fait, il y a des victimes des rats introduits qui dévastent les nids. Et aujourd'hui, de 10 individus, on est passé à 300 perroquets, perruches en liberté. Donc cette perruche de Maurice est encore en situation précaire. 300, c'est pas beaucoup. Mais elle est sauvée de l'extinction.
Alors pour que le monde s'intéresse à la biodiversité, aujourd'hui il y a une idée qui est en train de prendre forme, c'est d'une part créer l'équivalent du GIEC pour le climat, pour la biodiversité, et puis aussi chiffrer l'apport économique de la biodiversité pour que si on n'a pas d'affection ou de sentiment pour ces animaux, on se rende compte de leur activité et voir que s'ils n'existent plus, économiquement ça va être très difficile.
Effectivement, ces deux idées sont très importantes. Donc le GIEC, en fait, c'est l'idée de créer un groupe d'experts international sur la biodiversité. Le sujet est assez complexe, mais on a un besoin impérieux de réunir les connaissances, d'établir des états des lieux et surtout de tirer des recommandations que les décideurs, les responsables politiques puissent mettre en œuvre. Donc ça, c'est l'idée du groupe. Ensuite, chiffrer les avantages de la biodiversité, c'est très important aussi. On commence tout juste aujourd'hui à chiffrer la valeur que vaut, par exemple, des mangroves, des forêts qui ont les pieds dans l'eau. Une mangrove transformée en élevage de crevettes rapporte à court terme de l'argent par l'exploitation de crevettes, mais une mangrove intacte, en fait, rapporte plus d'argent par le bois qu'elle procure, les plantes médicinales, etc.
Merci Franck Krishner. C'est pas du vent, on revient juste après un rappel de l'actualité. Nous partirons à la découverte du banc d'Arguin au large de la Mauritanie.
À tout de suite.